Aleluya, 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 aleluya. À toi Dieu notre louange, toi le Seigneur nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en va dans la montagne pour prier. Et toute la nuit, il la passa à prier Dieu. Le jour étant arrivé, il appelle ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donne le nom d'apôtres. Simon auquel il donna le nom de Pierre ou Cephas, André son frère, Jacques, Johanna, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui devint un traître. Avec eux, Jésus descendit de la montagne. Puis il s'arrêta sur une vallée toute plate où se trouvait un grand nombre de ses disciples et une immense multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus entendre Jésus. Ils étaient venus se faire guérir de leur maladie. Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule le cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de Jésus qui les guérit. Tous, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes, qu'il nous lave de toutes nos fautes, qu'il répande sa lumière vivante comme un manteau sur toute l'orbe de la terre. Qu'il pénètre en bénédiction brûlante toute chair assoiffée de sainteté virginale divine et pure. Et qu'il puisse de leurs yeux, dès cette terre, voir les portes de la Jérusalem d'en haut. S'ouvrir, libérer de toute entrave, laver de toute faute, immaculé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allô, louange à toi, alléluia, louange à toi, alléluia, louange à toi, alléluia. Louange à toi, alléluia, louange à toi, alléluia, louange à toi, alléluia. C'est pour m'aider, hein, pour m'encourager. Ah, ne serait pour la messe pour faux pas, pour Suzette.
Suzanne.
C'est pour Suzette.
Et Jacques, j'avais marqué les prénoms. Le petit amour. Et Jérôme. Et Georges.
C'est important, la famille. Hein. Papa, la maman, les petits-enfants. Saint-Simon et Saint-Jude, je suis en rouge aujourd'hui parce que, en fait, des martyrs, vous avez vu ces grandes statues à Rome, à la cathédrale du pape, à Saint-Jean-de-Latran. C'est à l'entrée, là, les deux premiers. Il y en a un qui est à gauche, qu'on rentre, et l'autre est à droite, première statue. C'est Saint-Simon et Saint-Jude. Et ils faisaient partie de... On parle très peu d'eux, finalement. Très, très peu. Hein. Et c'est les... Et ils ont été... Ils ont vécu à Nazareth. Ces deux-là, ils ont vécu à Nazareth. Jacques, fils d'Alphée, ils étaient pratiquement de la même maison. Et ils ont vécu avec le Seigneur, en famille, parce que c'était les cousins germains. Alors, d'ailleurs, leur maman était au pied de la croix, avec Marie, et si bien que ces enfants, dans ces époques-là, la famille était se regroupait dans la même maison, pratiquement, ou alors c'était la maison voisine, quoi, que les parents. Donc c'était Zacharie, Anne et Joachim, qui étaient à Nazareth, Anne et Joachim. Sainte Anne et Saint Joachim. Ouais. Et donc c'était le petit-fils de Sainte Anne et Saint Joachim. Voilà, et à ce titre-là, il y a une tradition juive qui fait qu'ils reçoivent la même éducation. Alors c'est pour ça qu'on les appelle frères. Il n'y a pas de mot cousin germain, ça n'existe pas parce que. On dit frère parce qu'on est la même éducation. C'est la même maison, puisque tant que le grand-père est là, il a autorité, ben voilà, c'est le même père. C'est le même patriarche. Et Simon et Jude, ils ont été éduqués, donc. Ils ont été éduqués, ils ont vécu tous les jours avec Jésus depuis qu'ils sont enfants. Parce que les autres apôtres, ils ont connu Jésus seulement 3 ans, c'est tout. Mais Simon et Jude, non, 30 et quelques. 10 fois plus, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont plus silencieux que les autres. Parce que dans la Sainte Famille, c'est très silencieux. Enfin, c'est pas parce que c'est silencieux, c'est parce que... Il n'y a pas de paroles inutiles, on peut dire, voilà, c'est ça, il n'y a pas de paroles inutiles. Par exemple, il y a des gens qui sont très silencieux, hein, parce que ce sont des sources primordiales. des colonnes. Tu rentres tout de suite dans l'église Saint-Jean-Latran, à droite et à gauche, c'est moi Saint-Gilles. Je crois qu'il y en a un qui a été martyrisé, on le voit avec une grande scie, comme ça, à bois. Hein, parce qu'il a été scié. Avec une grande scie à bois, et il me semble que celui qui ne se pourrait pas dire qu'il s'appelle Simon le Pégé. Je crois que Jude, c'est celui qui est avec un grand gourdin énorme. On l'a achevé comme ça, à grands coups de gourdin, crasé la tête partout. Il n'y a pas un seul apôtre qui n'ait pas été. Martyrisé, quoi. C'est incroyable cet acharnement là. Et ils étaient pauvres, ils marchaient pieds nus, ils allaient partout, ils disaient que le Messie était venu, que Jésus venait les sauver, ils faisaient des miracles, ils faisaient des guérisons et surtout, ils chassaient les démons. Ils chassaient les démons, il suffisait qu'ils arrivent dans un endroit et comme presque tout le monde était possédé, ça chassait les démons, c'était... Les gens étaient libérés, si bien que les démons. Des démons, il y en a, hein. Et c'est à cause de ça que le démon n'était pas content. On peut pas, c'est pas compréhensible, quoi. Pourquoi est-ce que on va s'acharner comme ça? Pourquoi cette espèce toujours de revendication? Ah non, que c'est ça, je veux pas de ça. Si. Pourquoi s'acharner sur des gens qui font que du bien? Ils travaillaient dur. C'était dans l'épître, travail dur. Ils n'étaient redevables de personne. Ils faisaient des travaux très... Et donc, quelque part, c'était facile de les mépriser. Mais de les haïr comme ça. Ils n'ont pas arrêté, quand même, c'est vrai, pendant 30 ans. Ils n'ont pas arrêté, ils ont été sur les routes. Et ils ont proclamé la bonne nouvelle. Et puis, ils célébraient la messe, quoi. Ben, ils célébraient la messe... À l'époque, c'était pas la messe de Saint-Pie-V, hein, c'était pas la messe de Saint-Pie-V. Et quand ils célébraient la messe, il y avait une proximité vraiment très grande. Hein. Le feu qui était rentré dans leur bouche à la porte de côte avait comme enflammé l'intérieur de toutes les grâces en germe. De toutes les grâces qui devaient se répandre jusqu'à la fin du monde dans l'humanité sauvée. Et tout ça s'était mis en eux. Et ça brûlait à tout leur intérieur. Et dans ce feu qui devait rendre vivants les membres vivants, Jésus vivant jusqu'à la fin du monde, c'est eux. C'est un peu comme en Adam. Il y avait en germe tous les hommes et les enfants qui devaient sortir jusqu'à la fin du monde de l'intérieur d'Adam et Ève. Ils étaient comme présents en germe. Un germe lumineux et vivant. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on a bien, on existe depuis plus longtemps qu'on ne le pense. Et pour les apôtres, il y a quelque chose de semblable. Hein. Et si bien que cette espèce de feu de la Pentecôte, là, ce feu qui brûle Jésus vivant et entier de la fin, les a habités. Si bien quand ils disaient la messe, c'est ce feu qui disait la messe. C'était le feu qui a embrasé Jésus, et qui faisait d'eux Jésus vivant, c'était eux. Si bien que le démon, quand il s'approchait d'un village, il faisait pas long feu, c'est le cas de le dire. Il faisait pas long feu. Et c'était Jésus. Et le feu qui était à l'intérieur d'eux était le même que le feu qui était à l'intérieur de l'autre. Ils étaient 12 comme ça. Et puis, ces 12-là, tu pouvais les remplacer. C'est un peu comme tu mets, voilà, une construction. la pierre angulaire, une autre pierre par-dessus, une autre pierre par-dessus. Tu fais des pierres, c'est beau quand tu vois ces grandes, grandes pierres qui font les cathédrales, des immenses pierres. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces pierres sont fabriquées avec du feu. Et elles sont agiles, elles sont lumineuses, elles sont subtiles. Et il y a une espèce de, d'amour, il y a une espèce de lien qui fait que c'est le même feu, si je puis dire, bien sûr. Si bien que tu peux remplacer, il y a une mobilité entre les pierres. C'est pour ça que le ciment vient de cette mobilité entre eux. Et la pierre angulaire qui est le Christ est à l'intérieur de eux, ils sont à l'intérieur, ils sont liés les uns aux autres. C'est extraordinaire cette muraille extraordinaire, ce mur, comme dit le psaume, qui s'est dressé comme ça. Et ce sont des pierres vivantes. Et ce qu'on dit des pierres vivantes, c'est qu'elles vivent comme ça. Elles peuvent se déplacer. Elles peuvent se déplacer. Tu peux être au sommet, tu peux être à la racine, tu peux être dans le fondement. Et tu as effectivement une qui va là, du coup l'autre est ici. Et elles sont interchangeables, si je veux. Mais c'est pas qu'elles sont interchangeables. C'est qu'elles sont en communion les uns avec les autres et se déplacent. Les unes dans les autres, les douze apôtres, tu ne sépares pas les douze apôtres. Faut voir comment Jésus a fait avec eux, c'est fou quoi. Pendant 33 ans avec Simon et Jude, et avec 3 ans pour les autres. Et nous, on est les membres vivants de Jésus vivant, nous. Nous, on est les membres vivants de Jésus vivant. C'est-à-dire que on est comme les pierres vivantes de la Jérusalem vivante. C'est-à-dire que toi et moi et toi et eux, eh ben dès qu'on prie, voilà, on peut être Saint-Simon et Saint-Jude. Saint-Simon et Saint-Jude, c'est nous. Nous, ça peut être Saint-Jean aussi, dans l'Apocalypse. Saint-Jean embrasé de lumière, avec Jésus entier à l'intérieur de lui. C'est Marie. Marie, c'est Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est nous. Et on est les membres vivants de Jésus vivant et entier. C'est pas, oh, celui-là, c'est un saint. Oh, celui-là, c'est pas un saint. Mais non. On est les pierres vivantes, on fait partie d'un même édifice, et on est comme, voilà, se glissant les uns dans les uns à l'intérieur des autres. Du point de vue du feu, c'est Jésus. Et au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que c'est Jésus vivant entier qui est en chacun d'entre nous, et en même temps dans tous, et en même temps dans le saint. Et notre corps humain, notre corps de matière, de sang et de feu, est conçu par l'acte créateur de Dieu depuis le début de la création en fonction de sa capacité à être sous le feu de la Pentecôte, sous le feu de l'amour du ciel dès cette terre, avoir cette capacité d'agilité. Il faut avoir un cœur très agile pour pouvoir habiter à l'intérieur du cœur de quelqu'un d'autre. Et notre cœur disparaissant, c'est le cœur de quelqu'un d'autre qui bat dans notre poitrine. Une agilité magnifique, quoi. Une luminosité aussi. Une subtilité. Si chacun tourne autour de son trognon, ça ne marche pas, ça. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que notre corps est fabriqué par Dieu avec des capacités, des propriétés, des aptitudes à être entièrement, de l'intérieur, complètement ouvert. Mais quand tu ouvres tout, même le point de vue de la matière la plus élémentaire, l'ensemble, les parties, tout est ouvert et que tu te jettes dans les bras de quelqu'un, tout est ouvert en lui. C'est ça, la subtilité. ça, c'est chrétien, tout est ouvert. Hein? Et on est sensible à ça. Et quand on fait ça, eh ben, les démons sont pas contents. Parce que si Jésus peut être m'envahir en entier, et être en entier celui qui m'envahit, et Marie, et Joseph, et les apôtres, moi j'utilise pas mal le Saint Jean aussi. Faut utiliser les saints. J'utilise pas mal Saint Jean de l'Apocalypse. Je disparais, c'est lui. Ça fait pas la même chose. Et quelque part, les saints aussi qui sont au ciel, qui sont dans la vision béatifique, ils sont très très contents de pouvoir envahir, que ce soit eux qui vivent à l'intérieur de Marie, par exemple. Hop, c'est eux. On est des pierres vivantes d'un seul édifice vivant. Extraordinaire, ça. Je peux être dans la clé de voûte, je peux être dans la fondation, je peux être à l'orée du tabernacle, je peux être, j'allais dire, la statue, je peux être la réalité qui est cachée derrière la statue. Ça, c'est les propriétés du corps. Notre âme n'a pas cette propriété. Mais le corps, oui. À cause des récepteurs, des diffuseurs, de toutes les opérations de matière, tachyonie, aussi. L'ange n'a pas ça. Alors, du coup, on proclame à cause de ça, à tout le monde la création, au monde angélique aussi. C'est pas mal quand l'ange va se servir de nous. Il va être lumineusement, de manière séraphique, dans son intériorité sans limite et sans fin. Ce qu'il est dans la lumière de gloire, à l'intérieur d'un corps ouvert, hein, et qui est le corps vivant de Jésus vivant. Les anges aiment ça, que nos portes soient ouvertes pour cette subtilité, cette agilité, cette luminosité, cette proclamation du royaume de Dieu dans tous les espaces de tous les mondes angéliques. Parce que l'évangile est proclamé à la création tout entière. À la création tout entière. Est-ce qu'on a conscience de ça? Il faut enseigner ça. Il faut enseigner comment on fait par l'oraison, bien sûr, par la ferveur, par l'immaculation du silence divin, à atteindre l'intérieur de tout l'univers, mais aussi de chaque être spirituel, pur, immaculé, glorieux, angélique, lui-même, extasié dans la lumière de gloire du face-à-face de Dieu. Et être les récepteurs aussi. On dit bien ADN récepteur. ADN diffuseur. ADN multiplicateur. Ouais. Alors Saint-Simon et Saint-Gilles, c'est ça l'avantage de eux, parce que ils sont réservés, on pourrait dire, ils sont réservés pour les heures de la fin, parce que c'est Saint Joseph, Sainte Marie et Jésus vivant et entier. Là, ils sont, voilà, ils sont du début et donc ils sont de la fin. Si tu t'avances, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai. Même si tu fais rien, ils vont se mobiliser pour te tuer. C'est là qu'on voit que ceux qui vivent attachés aux choses de ce monde sont des démons. Et nous, on n'est pas attachés aux choses de ce monde, surtout quand on achète une maison. On est mais totalement détaché. Pour nous, une maison, c'est rien. Ce qui compte, c'est ça. Hein? Voilà, ça. C'est ma demeure, c'est elle. Ce qui compte, c'est ça. C'est l'amour, c'est la lumière, c'est la famille du ciel. Et là, on proclame la bonne nouvelle à la création tout entière. C'est la dernière parole de Jésus sur la terre. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Je vous envoie partout pour que vous proclamiez le baptême tous ceux à tout l'univers, à la création tout entière. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire, comment pourra-t-il être sauvé? Donc si quelqu'un vous veut du bien, c'est qu'il n'est pas... Si quelqu'un n'est pas contre vous, c'est qu'il est pour vous. C'est pour ça que Jésus dit ça. Mais si quelqu'un n'est pas chrétien, qui refuse la lumière, qui refuse ce qu'il est, alors forcément il aura une haine terrible contre vous. C'est terrible d'en arriver à prendre une scie à bois pour scier un innocent. Un homme ne peut pas faire ça. Ça peut être que le démon. Et tous ceux qui sont attachés à la terre, à quelque chose de terrestre, vont devenir ces tortionnaires des innocents. Et on le voit aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait 800 000 enfants, il faut voir comment est-ce qu'on fait pour les broyer, quoi. Il y a un mois, j'ai eu une amie de mon frère Bruno, Nathanaël. Bon, elle ne mange plus, un peu comme Marthe Robin, comme Catherine de Sienne, depuis des années. Et encore plus maigre que toi. Elle dit, je ne comprends pas, Jésus m'a emporté, m'a fait sortir de mon lit. Il m'a amené, j'ai parcouru des espaces un petit peu comme, comment on s'appelle la petite là, qui s'appelle Lucie, c'est ça. Elle vole, quoi. Mais avec son corps, quoi, elle s'en va. Et puis il m'a amené, il m'a montré. C'était de la bouillie. Avec des filles, c'était vivant, mais c'était de la bouillie. Et c'était que de la bouillie. Et puis à partir de là, les hommes qui étaient, il y avait des hommes que je ne voyais pas, mais on les devinait. Et en fait, ils faisaient de la bouillie. Et puis, pourquoi ils faisaient de la bouillie? Mais Jésus m'a dit, tu sais pourquoi ils font de la bouillie comme ça? Avec les enfants, les innocents. Il faut voir comment ils font, hein. Non, mais il faut vraiment être. Un avortement, c'est dingue. De la bouillie, quoi. Alors, il y a du sang, il y a du... C'est de la peau, c'est de l'endomètre, c'est des ADN, c'est tout ça. Et ils mélangent, et puis, s'ils mélangent... Mon Dieu, et puis... Mais c'est incroyable. Et c'est pas croyable. Et puis, il y a toutes les couleurs là-dedans. Elle disait, c'est de la bouillie. Et puis, de là... Comme s'ils voulaient faire quelque chose pour faire partir de là une... Voilà, au milieu de cet étang de bougies, pour faire sortir un être humain, le clonage. Voilà ce qu'ils font aujourd'hui dans les laboratoires. Rien qu'en France, 600 000 enfants congelés pour pouvoir en faire de la bouillie. Et ils sont vivants, hein. Ils sont vivants. Parce que si toi, tu es adulte, je prends la scie. Bon, ce sera pas drôle, mais ça ne durera pas longtemps. Tandis que eux, c'est pas pareil. Ils sont tout proches de la créateur de Dieu. Quand tu fais de la bouillie avec un embryon, il reste vivant. Hein. Vous saviez ça? Parce que l'âme est beaucoup plus proche de la créateur de Dieu. Donc l'âme est toujours liée. Et c'est pour ça qu'on voit cette bouillie toujours vivante. J'avais trouvé extraordinaire qu'elle l'ait vue de ses yeux, ça. Et puis c'est très très vrai. Quand quelqu'un fait un avortement, vous connaissez pas l'histoire du celui, il prend un bout de main, là, il l'arrache, voilà, il prend un bout de genou, allez hop, il prend un bout de cœur, allez hop, il le pose sur la table, il va chercher, il va couper, il va avoir un morceau de crâne, et puis un bout de doigt, voilà, hein, très bien, un bout de doigt, une jambe, tout ça, il pose. Bon. Il dit, bon, quand même, on va y arriver, de toute façon, il a l'habitude, ça fait déjà plus de 30 000 fois qu'il l'a fait. Donc, il regarde ici, alors qu'il regarde, ils sont déjà complètement démembrés, depuis 5 minutes. Tu meurs immédiatement, oui, normalement. Eh ben non. Non, la jambe, elle se remet comme ça, elle bouge, le cœur, ben, il bat. La main se tourne vers lui et il le montre. Et l'âme, qui est encore vivant dans tous ses membres disloqués, l'âme fait comprendre au docteur Nathanson qu'il lui pardonne. Et ça fait n'importe qui dira, mais il est mort depuis longtemps. Et le gars, il n'avait jamais regardé qu'il faisait de la bouillie vivante. Pour la première fois, il voit au bout de 5-10 minutes que l'enfant, il est là, il est encore vivant. Il est encore vivant, même si tous les membres sont séparés. Et ils vont prendre de cette bouillie pour faire des cosmétiques, pour que les femmes de ce monde puissent avoir une belle peau. Vous savez la crème qu'on met là, hein? C'est fait avec de la bouillie d'embryon. Dans toutes les femmes d'Occident, elles se refont un beau visage avec de la bouillie d'embryon. C'est pas drôle, je trouve, ça. Hein? Et bien ça, pour avoir une haine pareille, et que on trouve ça normal, et que ça devient un droit, c'est-à-dire si tu vas en prison, si tu n'as pas le droit de faire ça, ça prouve bien qu'on est en pleine possession diabolique collective. C'est normal. Oh, arrêtez de parler de ça, faut rester simple, enfin. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Et donc l'apostolat de la fin, c'est un apostolat pour la vie commençante. C'est ce qu'a dit la Sainte Vierge aux enfants de Fatima. La Troisième Guerre mondiale, c'est la guerre contre la vie commençante, contre la vie primordiale, contre la vie innocente. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui est la plus proche de l'immortalité, hein. De la créateur de Dieu, de la paternité vivante de Dieu. C'est là où il y a quelque chose. Par exemple, si tu as deux jumeaux, disons la proximité qu'il y a entre les deux jumeaux pendant les deux premiers mois. Wow. Sur le plan de la chair, sur le plan du sang, sur le plan de l'âme, sur le plan de... C'est fou, quoi. C'est fou. C'est impossible. Et c'est, ça marque. C'est très apostolique. Hein. Deux par deux, ça. Là, t'as un sens de l'univers, t'as un sens de la lumière, t'as un sens de la vie intérieure, t'as un sens de l'abnégation. Qu'est-ce qu'on se peut s'en fiche d'être ici ou là? La famille, c'est formidable. Saint-Simon et Saint-Jude. Alors elle disait, Nathanaël, mais pourquoi Jésus m'a montré ça? Pourquoi Jésus m'a montré ça? Et il a voulu te montrer à quoi ressemble l'ensemble de notre humanité d'aujourd'hui. Voilà. C'est ça, on fait de la bouillie, et on essaie de faire un être humain qui ne vient pas de Dieu. Et c'est ça l'effort collectif, même des catholiques. Des catholiques y compris. Il n'y a personne pour Et le Christ a dit, l'amour se refroidira comme un glaçon, et la foi disparaîtra de la terre. Sauf pour toi, évidemment. Toi, c'est pas pareil. Toi, non. Toi, t'es immaculé, toi. Et ça, c'est impossible à vivre. Si t'as pas la grâce de la fin du monde, de l'Église de la fin du monde, tu peux pas vivre ça. La petite Nathanaël, quand elle a vu ça, elle était effondrée. Elle dit, je peux pas vivre, moi, je peux pas vivre, je peux plus vivre. Elle dit, si, je dis, c'est ça. C'est bien. Ça veut dire que tu peux pas vivre, on peut pas vivre sur la terre avec les hommes d'aujourd'hui, on ne le peut pas. Et eux, ils ne veulent pas, puisqu'ils ont décidé que c'était normal de travailler avec les démons. Pour tout. On travaille les démons pour les choses de la vengeance, on travaille avec les démons pour les choses du sexe, on travaille avec les démons, sans les démons, c'est pas rigolo. On travaille avec les démons pour les choses des cosmétiques, on travaille les démons même pour avoir de l'eau minérale, on travaille pour les démons pour faire de la musique, on travaille pour les démons pour faire tout. On dit, sinon c'est pas drôle. C'est pas rigolo. Hein, c'est vraiment pas drôle. Hein. Et donc, il faut vivre de la grâce de l'Église, de la fin du monde. Voilà. De Jésus vivant et entier venant sur les nuées du ciel avec tous les choisis qui sont les siens et qui sont marqués par le feu dans le sceau. Ils sont marqués par le sceau du Saint-Esprit qui marque et brûle de l'intérieur le Jésus vivant descendant sur les nuées du ciel avec l'église de la Jérusalem de la fin. Et bien de plus en plus dans nos prières, il faut avoir le front fixé sur la Jérusalem de la fin. Le front fixé sur la Jérusalem de la fin. L'église finale. Jude, Simon, Jude et Jean. Jean, c'était un cousin issu du Germain. C'est pas loin. Fixé sur Jérusalem, dans tes prières, je veux avoir le front, mon intérieur fixé sur Jérusalem. Tu vois, tu fais comme la fronde, tu sais la fronde. Avec la fronde, tu te lances comme ça, toi-même. Waouh ! Et tu viens pénétrer à l'intérieur de la Jérusalem de la fin. Et du coup, la Jérusalem de la fin vient jusque dans l'instant présent. Et du coup, tu peux marcher dans le monde du temps présent, en étant catholique. Celui qui ne marche pas avec la grâce de la parousie, il est mort. Il appartient de droit à l'Antichrist. Alléluia. On fait comme ça? Tu vas nous aider? Tu vas nous aider. Aujourd'hui se lève la lumière du Seigneur, qu'elle dépasse toute frontière, qu'elle vienne habiter tous les cœurs, que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie, au pays de la soie, l'oase. Elle se répand, qu'aujourd'hui se lève la lumière du Seigneur, qu'elle dépasse toute frontière, qu'elle vienne habiter tous les cœurs,